Sure. Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George, I might leave out number letter F, you know? In fact, I might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Alors, on avait quitté Miles hier pour une séance légendaire, dirons-nous, sur l'album Milestone. On va le retrouver cette fois-ci pour la même séance. Elle est datée du 4 mars 1958. Ce sont les mêmes protagonistes d'ailleurs, à savoir Miles évidemment, John Coltrane à l'alto, Cannon Brotherly au ténor, le nouveau venu, Red Garland piano et Phil Little Jones à la batterie. Alors, Miles a déjà concocté un peu tout ça dans sa tête et il va donc souhaiter, effectivement, comme il le dira plus tard, pouvoir faire un nouveau jazz pratiquement. C'est-à-dire qu'il va déclarer « J'ai eu pour ce sextet dont l'idée est de réactualiser ce que nous avions déjà fait avec le quintet, avec la volonté de rajouter la sonorité blues de Cannonball. J'ai senti que la sonorité blues du sax alto de Cannonball, sax ténor, pardon, rajoutée, va amener Coltrane vers une autre direction. J'ai voulu donner à ce mélange musical plus d'espace en utilisant les concepts d'Ahmad Jamal, dont vous n'ignorez pas qu'il était totalement fan à cette époque-là. J'entendais ma trompette sonner au-dessus de tout cela et je pensais que si nous le faisions correctement, la tension musicale serait encore plus forte. En n'en pas douter, Cannonball Adderley, le nouveau venu, a vraisemblablement, c'est le moins qu'on puisse dire, subi l'influence de Coltrane sur son jeu. Certains solos sont parfois presque indissociables et on ne peut savoir exactement quand finit le solo de Coltrane et quand débute le solo donc de Cannonball Adderley. Michel Legrand, donc expert en la matière, va donc déclarer lui aussi « J'adore la manière dont ils approchaient la mélodie. Tout est mélodieux. Les accords sont très simples comme un tapis posé pour que la mélodie se pose dessus. » Little Melody, dont parle le sextet de Miles Davis. We'll be right back. 4 mars 1958, Miles Davis Sextet, Little Melanie. Ce même jour, enregistrement du thème Dr. Jekyll, qui est sous-titré, en réalité, il devrait être ainsi, sous-titré Dr. Jekyll, parce que c'est tout simplement une compo et un hommage donc à son vieux pote Jackie McLean, aussi junkie que lui, dirons-nous. Et bien, dans ce thème, Miles semble quelque peu gêné par les parties jouées en groupe. Et cette impression ne vient pas des lignes jouées par les cuivres, mais plutôt du tempo rapide qui leur est demandé, les obligeant à donner le meilleur d'eux-mêmes pour chaque note. Davis va commencer le premier à jouer son solo, comme le faisaient à la tradition donc les jazz bands et les leaders des jazz bands, et puis il va considérer qu'ayant eu ce privilège, il va donc là aussi innover quelque peu avec il va partager son chorus ensuite avec le batteur dont Philly Joe Jones et puis après Cannonball et John Coltrane vont donc échanger à leur tour dans ce thème Dr. Jekyll.
Thank you.
Dr. Jekyll, donc par le sextet de Miles Davis du 4 mars 1958. Ce jour-là, cette séance-là va se terminer par un morceau d'assez long d'ailleurs, il va durer pratiquement 12 minutes. Ce sera le thème donc tout simplement Seeds Ahead. Certains reconnaîtront également Walking. Eh bien, dans ce thème-là, cette fois, Miles a un peu inversé l'ordre des solis. C'est Coltrane qui va ouvrir le bal et cette fois, à n'en pas douter, l'influence de Coltrane va se ressentir dans le jeu du solo de Cannonball Adderley, une série de glissandi digne cette fois-ci du meilleur Coltrane. Tout cet album est construit non pas sur des changements d'accords, mais sur les tonalités. Pour Miles, c'est un nouveau support. Certes, ce n'est pas la première fois que Miles utilise la simplicité, mais c'est la première fois qu'il porte cette idée à maturité. L'album Milestone marque une nouvelle étape, non seulement dans le jeu et la carrière de Miles Davis, mais même dans l'histoire du jazz. En effet, on ne veut plus utiliser donc pratiquement deux tonalités. Une première, donc, ce sera pour l'exposé du thème, et la deuxième, ce sera pour le pont. Et là, les musiciens comprendront vraiment ce que j'ai voulu expliquer. Seeds Ahead par Miles Davis Sextet.
Thank you.
Intégral Miles, donc l'émission consacrée entièrement à Miles Davis, on est en 1958, le 4 mars, et ce sera donc le dernier enregistrement de cette séance. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais peut-être l'avez-vous constaté, c'est que, eh bien, il n'y a pratiquement pas de piano. Red Garland est allé prendre l'air, mais que cela importe, hein, eh bien Miles, lui, évidemment, s'est installé au piano, juste pour quelques accords spartiates durant le solo de Coltrane, et puis tout au long du morceau, eh bien non, pas de piano. Ce sera donc la fin de cette séance-là, et puis tout le monde va se quitter ravi. Coltrane va repartir à d'autres aventures. Red Garland, lui, va aussi développer à partir de là une autre tendance au jazz qui lui sera personnelle. Il reviendra quelquefois jouer d'ailleurs avec le quintet. Mais pour l'instant, donc, voilà. Nous ne vont demeurer, si je puis dire, à la fin de la séance, que Cannonball Adderley et puis Miles Davis. Alors Miles Davis a toujours besoin de beaucoup d'argent parce que je vous raconterai ça, tiens, la semaine prochaine. Figurez-vous qu'il a une phobie, ça y est. Il s'est mis à penser que pour satisfaire à la fois son aura, son prestige et puis ses besoins personnels, il lui fallait tout simplement une Ferrari. Et par conséquent, Ferrari, c'est pas donné quand même. Par conséquent, il va falloir trouver de l'argent. Alors certes, on va dire qu'il sera en cela aidé par Alan Eager, c'est un saxophoniste qualifié de bebopper, qui lui a maintenant compris eh bien, que les grandes dames, avec un peu de fric, s'intéressaient aux jazzmen. Il va donc présenter Miles à quelques comparses comme ça, qui vont, elles aussi, aider Miles à acheter la Ferrari. Je vous raconterai tout ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on va savoir tout simplement que par rapport à cela, eh bien, Miles n'a pas oublié quand même que chez Blue Note, on était satisfait de lui. Et il se dit que bon, chez Columbia, c'est bien, on est bien payé, il a fait son boulot. Mais tiens, pourquoi pas aller retourner chez Blue Note ? Sauf que, effectivement, il ne peut pas y aller parce qu'il est sous contrat chez Columbia. Mais vous imaginez bien que quand on a la notoriété que vient d'acquérir Miles, on est prêt chez Columbia à pas mal de compromis. On va donc accepter, après maintes négociations, que Miles aille faire un tour chez Blue Note à une condition. C'est que l'album ne soit pas sous le nom de Miles Davis. C'est la raison pour laquelle il sera sous le nom de Cannonball Adderley. C'est le fameux album Something Else, et on peut d'ores et déjà dire que cet album va annoncer l'album de la semaine suivante, l'album le plus connu de l'histoire du jazz, Kind of Blue. Mais pour l'instant, on va donc aller écouter un peu ce qui va se passer dans ce Something Else, où cette fois-ci, eh bien, on va retrouver des musiciens qui seront donc Miles à la trompette, Cannonball Adderley à l'alto, et là, Miles va trouver une nouvelle rythmique. Il y aura donc Hank Jones piano, Sam Jones à la basse et puis un batteur qu'il connaît bien, malgré tout, Art Blakey. On va se retrouver le 9 mars 1958 et puis donc pour le thème Dancing Dark qui va, si on peut dire, ouvrir la séance, eh bien Miles, malgré tout, est conscient qu'il doit ça à Cannonball. Et par conséquent, il va indiquer à Cannonball qu'il va jouer, mais que pour ce morceau-là, eh bien, il ne prendra pas de solo. Dancing in the Dark, donc on va dire avec Miles Davis, mais sous la direction donc de Cannonball Adderley. Thank you. Dancing in the Dark, donc extrait de l'album Something Else, paru chez Blue Note et sous la baguette, dirons-nous, donc de Cannonball Adderley. Alors, s'il est vrai que Miles a eu beaucoup de saxophonistes dans sa vie, bien sûr, il y a eu Coltrane, bien sûr, il y a eu Jackie McLean, bien sûr, il y a eu Sonny Rollins, bien sûr, il y aura Wayne Shorter, mais on peut dire, sans trop se tromper, qu'à cette époque-là, celui qui va vraiment être le plus en adepte et plus en phase avec Miles Davis, c'est bien sûr Cannonball Adderley. Il est vrai que celui-ci, avec son frère Nat, avait fondé un quintet qui ne manquait pas de piquant, mais qui savait aussi donner beaucoup d'lyrique quand il le fallait. Et par conséquent, on sent déjà que va poindre le nouveau Miles, c'est-à-dire tout est simple, pratiquement rien n'est compliqué. C'est destiné à un public beaucoup plus large que précédemment, parce que c'est assez chatoyant à l'oreille, et par conséquent, Miles va acquérir la notoriété qu'il espère depuis tellement longtemps. Les maisons de disques se l'arrachent presque, dirons-nous. Quant aux critiques, alors ils sont complètement subjugués, de ceux de Downbeat à Jazz Esquire ou à toutes les revues, Jazz Review ou autres. Tous ne cessent de targuer le nouveau Miles qui est arrivé. C'est un peu comme le Beaujolais nouveau et par conséquent, à partir de là, on va donc trouver un nouveau Miles Davis. Alors, il a choisi, malgré tout, il faut le savoir, il a participé au choix des thèmes, et notamment ce Dancing in the Dark. C'est lui qui l'a choisi, même s'il ne joue pas. Et il l'a choisi pourquoi ? Alors ça va peut-être vous surprendre. On connaît la version de Miles pour les chanteuses. Eh bien, il l'a choisi parce qu'il vient de découvrir cette version au travers d'un vocal de Sarah Vaughan, tout simplement. Alors après avoir accepté donc de ne pas participer pratiquement à ce morceau, eh bien, Cannonball Adderley va donc indiquer que, évidemment, il faut là aussi que Miles participe. Et par conséquent, il va m'indiquer, eh bien, écoute, Miles, si tu veux, tu choisis le thème que tu veux. Alors, pour vous dire que l'album, c'est aussi, même si ce n'est pas écrit directement à l'album de Miles, Miles va dire, écoute, si on joue à un blues, eh bien, oui, pourquoi pas. Et figurez-vous que le titre du blues, il s'appelle Something Else. Ce sera aussi le titre éponyme de l'album. C'est vous dire que l'album, il est plutôt Miles Davis que Cannonball Adderley. Something Else avec Cannonball et Miles Davis. Thank you. Something Else, du jazz, du vrai, du très, très, très grand jazz. En effet, on a l'impression qu'on assiste, allez, on va faire une image, tiens, à une partie de volley jouée par deux jumeaux. Je t'envoie la balle, tu me la renvoies, je te la renvoie, tu me la renvoies, je te la renvoie, tu me la renvoies. Et c'est comme ça que, on dirait vraiment deux musiciens qui ont toujours fait cela depuis leur naissance, on pourrait dire. Eh bien, on ne sait pas si ça a été préparé d'avance, si ça a été improvisé sur place. Toujours est-il que c'est vraiment une forme de jazz qui va plaire à tout le monde et qui fera qu'on peut dire que cet album est aussi important presque que Kind of Blue. C'est peut-être l'album qui est fait, on va le dire, allez, allons, on va se lancer, pour ceux qui n'aiment pas le jazz, tiens. Avec ça, vous avez de quoi passer une très bonne soirée, d'autant que ça va se poursuivre, hein, rassurez-vous, si vous avez l'album. Et si, comme moi, vous êtes un fanatique de Miles Davis, eh bien, vous allez devoir faire comme moi. Vous allez devoir acheter deux albums. Vous allez devoir acheter d'abord le vinyle. Ça, c'était il y a longtemps. Après, vous vous dites, tiens, ça y est, ils l'ont sorti en CD. Vous allez acheter le CD. Vous êtes ravi parce que la qualité du son n'a plus rien à voir. Et puis, un jour, vous fouinez un peu dans les imports japonais et vous voyez cet album venu du Japon, Blue Note Japan. Et vous vous dites, bon, allez... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus ? Eh bien si, il y a un titre qui n'est pas sur le CD Blue Note normal. Il est sur le Blue Note japonais. Alors je vous donne la référence du Blue Note japonais. C'est la référence BNJ 27001. Et le titre donc, qui est donc en plus sur cet album, c'est tout simplement une compo de comment s'appelle-t-il le pianiste déjà, Dang Jones. Ça a pour titre Bangun. Alors c'est un thème très rapide. On pourrait presque dire que c'est un bebop style Parker Gillespie. Eh bien non, là, c'est pas Parker Gillespie. C'est Miles Davis et Cannonball Adderley. Thank you. Bangoon, sous-titré également Allison Uncle. Alors, je ne sais pas qui était le neveu de Allison, mais bon, ça n'a pas une grande importance. C'était donc mon cadeau du soir pour cette session d'Integral Miles, avec donc cet enregistrement qui n'est paru que sur un Blue Note japonais.